Vous le savez maintenant, nous avons organisé un jeu concours avec Alain Juillet et je vous donne rendez-vous à la fin de cette émission pour répondre aux modalités et pour participer à ce jeu. Bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour.
Bonjour Claude.
Nous allons parler aujourd'hui, et nous l'abordons depuis un certain nombre d'émissions, les problématiques de l'Europe dans les années à venir. Alors, on a abordé un certain nombre de sujets, et aujourd'hui nous allons parler tout particulièrement de la révolution verte que propose l'Europe, et pour relever tous ces défis climatiques et environnementaux. Et pour cela, vous avez invité une personne idoine, Philippe Charlès, qui a travaillé très précisément sur ce sujet. Je vous laisse développer avec votre invité.
– Absolument. Vous avez pu voir ces dernières semaines, ces derniers mois, que le monde agricole dans l'ensemble de l'Europe s'est rebellé contre les décisions de la Commission européenne et les votes du Parlement européen qui avaient constitué ce qu'on appelle le pacte vert ou le Green Deal, pour prendre l'expression à la mode, à savoir toute une série de réglementations gérant l'environnement, la production au niveau agriculture. Et pour d'autres domaines également. Mais là, on parle de l'agriculture pour ce qui s'est passé. Et alors, je me suis aperçu que, en définitive, peu de gens comprenaient vraiment ce que ça voulait dire. Alors, je me suis dit que c'est intéressant de faire venir un véritable expert qui nous parle de la transition énergétique du point de vue des Européens. Qu'est-ce qui est en train de se passer en Europe? Pourquoi on voit ça comme ça? Qu'est-ce qu'on veut faire? Et bien comprendre comment l'Europe veut s'inscrire dans cette évolution et ce qu'elle souhaite mondiale et qui, en définitive, et on va le voir, ne l'est pas du tout. Alors, j'ai donc invité Philippe Charlès, bonjour.
Bonjour,
qui est un expert que nous connaissons bien. On l'a déjà reçu, vous en souvenez, on avait fait une très bonne émission avec lui qui avait eu beaucoup de succès. Et Philippe Charlès est non seulement un expert de, je dirais, tous les problèmes d'énergie, on peut dire, et de bien d'autres domaines, mais également, il est un des dirigeants de l'Institut Sapiens, qui est un institut qui, justement, réfléchit à toutes ces problématiques, et lui, plus particulièrement, dans la partie énergétique et la partie environnementale. Donc, qui pouvait mieux que lui dialoguer avec vous et avec nous pour pouvoir réfléchir et comprendre ce qui se passe vraiment? Alors, pour commencer, transition énergétique, pourquoi et comment?
Alors d'abord, Alain Juillet, merci de votre invitation. Je pense qu'il faut replacer cette notion de transition énergétique dans un contexte mondial pour commencer, en expliquant que depuis pratiquement 10 ans, c'est-à-dire depuis cette fameuse COP21 qui avait débouché sur le dit accord de Paris, donc c'est-à-dire maintenir la température en dessous de 2 degrés, voire près de 1,5 degré, nous n'avons non seulement pas progressé, mais la situation s'est empirée. C'est-à-dire que depuis 10 ans, nous avons continué de façon régulière à augmenter, je parle du point de vue mondial, les émissions de gaz à effet de serre. Elles ont encore augmenté en 2023 d'1,5%. Et cette augmentation est principalement due aux pays émergents qui représentent aujourd'hui les 2/3 des émissions et, compte tenu de la démographie, en représenteront en 2040-2045 pratiquement 90%. Un chiffre intéressant, en Chine aujourd'hui, on construit une centrale électrique à charbon toutes les semaines. Donc ça signifie
qu'ils font aussi du nucléaire, entre parenthèses.
Oui, ils font du nucléaire, mais de
plus
toute façon,
que nous,
plus vite que nous, des renouvelables, beaucoup plus vite que nous aussi, mais ça ne compense pas leur augmentation. Alors le pourquoi de ça, tout simplement parce que pour ces pays émergents, et c'est bien légitime, le développement humain passe aujourd'hui avant la lutte contre le réchauffement climatique.
Attendez, je voudrais vous interrompre une seconde là-dessus pour rappeler à nos auditeurs, parce que c'est très important ce qui vient d'être dit. On a commencé à parler du réchauffement climatique avec Al Gore, candidat à la présidence des États-Unis, il ne faut pas l'oublier, contre George Bush.
En 2002.
En 2002, oui, c'est ça, en 2002. Et qui a dit, Il faut lutter contre le réchauffement climatique, c'est essentiel. C'est lui qui a sorti les premiers films, les premières argumentations là-dessus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces fameux pays dont parle Philippe Charest, les pays en développement, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit « c'est la dernière invention des Occidentaux pour nous empêcher de nous développer, parce qu'en mettant des taxes à l'importation sur des produits venant de nos pays sous prétexte que nous ne luttons pas contre le réchauffement climatique, en réalité, ils freinent notre croissance pour continuer à dominer le monde. » Ça, il ne faut pas l'oublier, parce que je peux vous assurer, je connais bien le tiers-monde, je connais bien un certain nombre de BRICS, je peux vous assurer que c'est encore dans leur tête aujourd'hui. Et que quand ils ont signé les accords de la COP21, tout le monde gardait en tête que c'était une invention des Occidentaux pour brimer les autres pays du monde.
Les pays émergents veulent continuer leur développement au risque du réchauffement climatique, alors qu'au contraire, les pays de l'OCDE sont prêts à pénaliser leur développement pour solutionner le réchauffement climatique. Ce sont deux visions opposées. Et comme le réchauffement climatique et la réduction des gaz à effet de serre est un problème mondial, si on ne le prend pas, et on va y revenir de façon mondiale, on ne peut pas y arriver, et on le voit, puisque depuis 10 ans, on a beau sauter comme des cabris, on n'arrive pas à réduire les émissions de gaz à effet de serre. On a battu encore en 2023 les consommations mondiales de charbon, de pétrole et de gaz. Donc on voit qu'on n'y arrive pas, malgré toutes nos incantations.
En somme, aujourd'hui, si on regarde, si on fait une image un peu caricaturale, nous nous comportons comme le village d'Astérix qui croit qu'il est le monde entier, alors que nous sommes un petit point isolé sur la planète et que le reste du monde est largement plus important que nous, à tout point de vue.
Absolument. Donc, si on reprend l'Europe, l'Europe, c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et l'Europe a baissé ses émissions de 30% depuis 1990. Oui. Donc, a fait déjà un effort extrêmement conséquent et a montré l'exemple. Parce qu'on va revenir sur ce fait de montrer l'exemple. Alors que les Chinois ont multiplié par 5 leurs émissions. La France ne représente moins d'1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc, est-ce que montrer l'exemple quand on ne représente qu'1% vis-à-vis de pays qui veulent de toute façon, et encore une fois c'est légitime, accroître leur bien-être et leur développement économique, est-ce que ça peut payer? J'en doute beaucoup.
Je voulais préciser une chose quand vous dites que la France représente 1% du gaz.
Oui, c'est même 0,8%.
Ou, ouais. Oui, bon, 1%. Ou les pays occidentaux ou les pays développés, il y a un discours qui dit oui, mais on consomme tellement qu'on achète des produits qui viennent des pays en voie de développement ou de Chine et ainsi de suite. Donc on est responsable du développement de la pollution d'un certain nombre de pays. Alors qu'est-ce qu'on peut répondre à ça?
Est-ce qu'on peut répondre à ça? C'est vrai. Donc, c'est-à-dire, si on prend les émissions françaises, c'est 6 tonnes de CO2 par habitant. Ça, c'est les émissions dites territoriales, donc c'est-à-dire celles qui sont émises sur le territoire. Et si on rajoute les émissions de consommation, alors on ne parle plus d'émissions, mais d'empreintes carbone, à ce moment-là, on monte à 9. Donc, c'est-à-dire que globalement, il y a 2/3 d'émissions territoriales et 1/3 d'importations en moyenne sur le français. Mais ce qu'on peut dire, c'est que d'un autre côté, ces émissions d'importation contribuent au développement des pays émergents.
Oui.
C'est-à-dire que si on arrête d'importer tout, on va les faire retomber dans une pauvreté auquel ils ont accès. C'est pour ça que je suis plutôt un mondialiste économique, j'entends. C'est-à-dire que le mondialisme a quand même permis de sortir de la pauvreté près d'un milliard de personnes. On oublie souvent de le dire. On tape à boulet rouge sur la mondialisation, alors qu'elle a permis à un certain nombre de citoyens du monde de sortir de l'extrême pauvreté. Donc ça veut dire que la consommation, quelque part, profite aux émergents. Et si on ne consommait plus, finalement, on fait revenir les émergents dans la situation où ils étaient avant la mondialisation.
Oui, alors moi je voudrais ajouter une chose pour nos auditeurs, c'est que si vous prenez la fameuse Chine, la Chine de Xi Jinping, c'est très intéressant parce que comme vous l'avez rappelé, par exemple, il ne parle jamais de réchauffement climatique, mais par contre il vous parle de lutte contre la pollution, donc, et qui contribue, sous une forme différente, mais qui contribue effectivement à la lutte contre le réchauffement climatique, et ils vous en parlent, mais pour une raison très simple, c'est qu'ils vous disent, par exemple, on va limiter la pollution sur les grandes villes comme Pékin ou autre, parce qu'en réalité, les gens tombent malades et que ça pose d'énormes problèmes de santé publique. Donc, on lutte contre la pollution, on réduit. Et c'est vrai qu'il y a une réduction. Alors, ce n'est pas du tout comme chez nous. Hein, c'est pas du tout, on ne vous parle pas de CO2, de lutte contre le carbone et tout, pas du tout. Mais il y a des mesures qui sont prises quand même, différentes de nous, mais qui contribuent à améliorer la situation. Alors ça aussi, il faut en prendre en compte, parce que ça veut dire que nous sommes obstinés sur le carbone. Est-ce que c'est la seule réponse ?
Non, mais vous avez tout à fait raison. Il faut bien séparer pollution atmosphérique et CO2. D'ailleurs, on prend souvent le CO2 comme un polluant, alors qu'en réalité, le CO2 n'est pas un polluant. Oui. S'il n'y avait pas de CO2, il n'y aurait pas de plantes sur la Terre. Exactement. Et donc, le CO2, c'est, il ne faut pas l'oublier, la nourriture des plantes est la base de la photosynthèse. On peut effectivement regarder cet aspect. On sait qu'en Chine, tout ce qui est pollution atmosphérique due notamment à la combustion du charbon, absolument, ça fait plusieurs millions de morts par an. Oui. Et on peut aller plus loin. C'est que dans les sociétés traditionnelles africaines que vous connaissez bien, le bois et le charbon de bois est encore fortement utilisé dans les huttes et dans les villages traditionnels. Et les émissions de particules dues à ce bois, c'est aussi absolument horrible du point de vue respiratoire, et ça crée plusieurs millions de morts par an.
Nous sommes dans un type d'interprétation, mais il y en a d'autres.
Oui. D'ailleurs, il y a une étude de l'ONU qui est... Ça nous dévie un peu, mais bon, c'est intéressant. Il y a une étude de l'ONU qu'on mentionne dans notre ouvrage, qui est sortie en 2022 et qui explique d'ailleurs que face aux aléas climatiques au sens large, qui ne sont pas nécessairement dus... Je vais même dire aléas météorologiques, d'accord, qui ne sont pas nécessairement dus tous au climat. On se défend, en fait, de mieux en mieux contre les aléas climatiques. Cette étude de l'ONU a couvert la période 1970-2020 et montre en fait que le nombre de victimes climatiques et météorologiques en 2020 est bien inférieur à ce qu'elle était en 1970, tout simplement parce que les moyens de défense sont beaucoup plus performants aujourd'hui qu'ils n'étaient dans le passé. Et ça montre d'ailleurs, on y reviendra, que l'adaptation au réchauffement climatique, qui de toute façon est inexorable, devient de plus en plus important et qu'il va falloir investir de plus en plus dans l'adaptation. Et comme on va être à budget constant, parce que les budgets et le financement ne peuvent pas s'étendre de façon illimitée, il va falloir investir moins dans la transition énergétique et plus dans l'adaptation.
Oui, justement, parce que il y a aussi une chose, on parlait tout à l'heure de la volonté de récession, en définitive, de dire il faut réduire la consommation, il faut tout réduire. Bon, mais on oublie une chose, c'est que, comme vous le dites très justement, quoi qu'il arrive, on le voit depuis la COP21, ça va continuer à monter, la température va continuer à monter. Et d'un autre côté, il faut arrêter de penser que si on augmente de 1,5 degré ou 2 degrés, on est mort. Ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a plein de pays dans le monde qui vivent avec des températures bien plus élevées et qui survivent très bien, qui se débrouillent très bien. Donc il faut peut-être quand même y penser aussi.
On peut même dire, pour aller dans votre sens, que le réchauffement climatique a des externalités positives. Ah. Deux externalités positives. On est en train, grâce au réchauffement climatique, de baisser fortement nos émissions, de baisser fortement notre consommation d'énergie dans les pays occidentaux, c'est ce que je vous ai dit. Oui. Et deuxièmement, il ne faut jamais oublier que le froid tue beaucoup plus que le chaud. Et donc, ça veut dire que de grosses affections comme la grippe, par exemple, qui sont dues relativement au froid, peuvent être réduites durant l'été. Alors, attention, il ne faut surtout pas mal interpréter ce que je dis. Ça n'est pas pour ça qu'il ne faut pas lutter contre le réchauffement s'y adapter.
Mais oui, mais justement, je crois que c'est très important, parce qu'alors on va revenir à ce qui se passe en Europe, mais c'est très important de bien voir que de vouloir uniquement parler de la lutte contre le réchauffement climatique à travers le CO2 et le carbone et autres choses, c'est oublier complètement un volet qui me paraît au moins aussi important, puisque c'est inéluctable, Hein, c'est le volet apprendre à vivre.
Oui, c'est
avec
ça.
Une température supérieure.
Donc, c'est-à-dire que c'est l'adaptation. Et l'adaptation a un énorme avantage par rapport à l'atténuation.
Oui.
Donc, atténuation, c'est transition énergétique, baisser les émissions de gaz à effet de serre. C'est que l'adaptation, elle est territoriale, alors que l'atténuation, elle est mondiale.
Exactement.
Donc, c'est-à-dire que les Français peuvent décider une politique d'adaptation,
absolument,
alors que l'Allemagne ou la Hollande ou la Chine décident de ne pas s'adapter. Quelques exemples typiques, adaptation de l'agriculture. On voit aujourd'hui que les espèces agricoles du sud remontent vers le nord.
Exactement.
C'est quelqu'un qui disait récemment que maintenant les pois chiches commencent à pousser à Pau et les courgettes à Orléans. Donc ça veut dire que le modèle agricole doit absolument s'adapter, mais modèle agricole s'adaptant, c'est pas seulement vu du côté du producteur, mais vu aussi du côté du consommateur. C'est-à-dire que le consommateur doit changer ses habitudes alimentaires par rapport au réchauffement climatique, et ça c'est compliqué.
Si on regarde jusqu'à un récapitule, réchauffement climatique indiscutable. Les raisons variées, mais on en connaît bien quand même les principales. Les pays en développement veulent continuer à se développer. Et ils ont raison, parce qu'ils veulent atteindre le niveau de vie que nous avons, et c'est légitime, après tout.
Ils en sont loin, mais cela étant,
ils veulent essayer.
Mais le gap est encore énorme.
Le gap est énorme, mais ils veulent. Ils veulent, et après tout, ils ont bien le droit, quand même.
Et ils ont bien le droit, absolument.
Ils le méritent. Donc, d'un autre côté, nous, on peut faire des efforts, mais on va y revenir avec l'Europe, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi, parce qu'on est quand même en compétition au niveau mondial avec les autres. Et que si, chez nous, on se pénalise trop, ben on ne pourra plus travailler avec les autres. Et on arrive à ce volet maintenant, où en définitive, on dit, mais le vrai rôle de l'État dans un pays n'est-il pas, au début, de lancer une véritable planification pour organiser la production, organiser la consommation, pour tenir compte de ce réchauffement climatique? Alors là, effectivement, on rentre, comme vous disiez, hein, sur les courgettes, les petits pois, les vignobles. Hein. On voit qu'aujourd'hui, les Anglais plantent des vignes, et on parle maintenant de vignes en Scandinavie. Oui, parce que le vin dans le sud de l'Europe, quand il sera à 15-16 degrés, on ne pourra plus le consommer comme vin. Et on est déjà à 14. 13-14. Alors, ce pacte vert, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça correspond à quelque chose de sérieux? Est-ce que c'est possible, sérieusement, ou est-ce que c'est simplement une vue de l'esprit de technocrates bruxellois, et Dieu sait s'ils en ont le secret, hein, c'est les mêmes qui sont capables de nous faire 135 pages de texte pour couper une haie, hein, par exemple. C'est qui est quand même, ça c'est un record du monde. Même en France, on n'avait pas osé.
Hein. Alors, il faut pour ça d'abord partir, je vais dire, d'un chiffre magique, du pacte vert, c'est les fameux 55% dont tout le monde a entendu parler. Donc, que dit le pacte vert? Il dit que globalement, l'Europe doit baisser ses émissions à l'horizon 2030, et 2030, c'est demain,
vous êtes
d'accord avec moi, de 55% par rapport à ce qu'elle émettait en 1990. Et donc, quand on fait un petit calcul, je vous ai dit tout à l'heure qu'entre 1990 et aujourd'hui, nous avons réduit en Europe, globalement, nos émissions de gaz à effet de serre de 30%.
Mais nous ne représentons que 8% du monde.
Mais nous ne représentons que 8% du monde. Allez, on oublie le monde et on regarde uniquement l'Europe.
On est d'accord.
On est d'accord. Bien. Et donc, en fait, ça veut dire qu'on a baissé nos émissions à un rythme d'environ 1,5% par an. Et si on continuait à ce rythme jusqu'en 2030, on ferait entre aujourd'hui et 2030 10% supplémentaires et on arriverait à 40%. Et c'est intéressant de voir que les 40% sont les premiers chiffres du pacte vert qui a été voté en 2019 par l'Europe. Et puis tout à coup en 2021, on ne sait pas pourquoi, mais sous la pression essentiellement du groupe écologiste de l'Assemblée européenne,
on est
passé à 55%. Et le passage de 40% à 55% fait que nous devons passer d'un rythme de 1,5% de décroissance des émissions à 5%. Et 5%, pour expliquer à nos auditeurs, c'est en fait ce qu'on a fait de façon exceptionnelle l'année du premier confinement, c'est-à-dire en 2020, quand on a tout fermé pendant 2 mois. Donc ça veut dire qu'on demande finalement, implicitement, aux Européens de refaire le même effort que pendant l'année de confinement sur les 7 années ou les 6 années qui nous espacent depuis jusqu'en 2030. Donc 5 années ou 6 années de confinement. On voit ce que c'est, et puis sans subvention, on va dire, parce qu'on ne va pas donner les subventions du confinement chaque année, du premier confinement chaque année, bien évidemment. Donc, je considère que ces 55% sont tout à fait irréalistes. C'est le premier RI de ce que nous avons appelé à l'Institut Sapiens le pacte des 4 RI, parce que nous avons rebaptisé le pacte vert le pacte des 4 RI. Alors, je suis sûr que vous êtes intéressé de savoir quels sont les 3.
Bien entendu. Après, maintenant que vous nous avez accrochés, on veut savoir la suite.
Donc, le deuxième I, c'est que c'est très injuste entre pays européens. Puisqu'en fait, on applique les 55% aux émissions initiales de chacun des pays. Et puis, on va regarder et comparer l'Allemagne et la France. En 1990, la France émettait déjà 2 fois moins que l'Allemagne, même 2,5 fois moins que l'Allemagne, puisque l'Allemagne était encore à l'époque, elle l'est toujours d'ailleurs, mais elle l'était encore beaucoup plus, très charbonnière à l'époque, alors que la France était déjà très nucléaire.
Oui, on peut dire, excusez-moi pour ça, mais pour nos auditeurs, il ne faut pas oublier que l'Allemagne, quand elle a décidé de supprimer les centrales nucléaires, a été obligée, parce que le renouvelable n'a pas marché comme prévu, ça a marché beaucoup moins vite que prévu. Et du coup, ils ont rouvert des centrales à charbon. Et encore l'année dernière, ils ont ouvert des centrales à charbon.
Des centrales à lignite,
Quand on a fermé Fessenheim en France, ils ont, pour pouvoir compenser l'électricité faite par Fessenheim et l'électricité nucléaire non carbonée, de l'autre côté, on a ouvert des centrales à charbon. Donc, de ce côté-là, il y a beaucoup à dire. C'est le moins qu'on puisse dire.
Et donc, quand on fait le calcul des émissions admissibles que les 55% appliquent à la fois à l'Allemagne et à la France en termes de réduction. Le français sera autorisé à émettre environ aujourd'hui, il émet 6. Il devrait ne plus émettre que entre 3,5 et 4 à l'horizon 2030, alors que l'Allemand sera toujours autorisé à en émettre 7.
Oui, donc on défavorise.
Donc ça veut dire que le meilleur élève est finalement pénalisé par rapport...
Une distorsion de concurrence.
Et donc on crée une distorsion de concurrence parce que réindustrialiser avec 7, c'est tout à fait possible. Réindustrialiser avec 3,5 ou 4, ça devient extrêmement compliqué parce que dans la réduction des émissions, la réduction des émissions marginales est beaucoup plus compliquée que les émissions initiales. C'est toujours le dernier kilomètre du marathon est le plus dur par rapport au premier. Donc c'est très injuste. Le troisième I, c'est que c'est tout à fait insoutenable économiquement. Le fameux rapport Pisani-Ferry qui a été publié en juin dernier estime le coût supplémentaire par rapport à ce que nous investissons déjà aujourd'hui d'accéder au pacte vert pour la France est de 66 milliards d'euros par an, c'est-à-dire entre 2 et 2,5% de PIB. Et donc la France ne pourra pas, le citoyen français ne pourra pas le financer lui-même. Donc ça veut dire qu'il faudra environ 25% de dette supplémentaire, estime le rapport Pisani-Ferry, pour financer ce pacte vert.
Et donc c'est-à-dire que c'est dramatique.
Parce que
ça, c'est les générations futures qui vont être ruinées par l'incapacité que nous avons à contrôler les dépenses. Et là, on est encore en train d'en ajouter un gros paquet.
Donc, en train d'en ajouter un gros paquet. 66 milliards d'euros par an, ça n'est pas loin de l'impôt sur le revenu.
Exactement.
Qui rapporte à l'État. Et d'autant que ces 66 milliards d'euros vont être extrêmement inefficaces sur le plan économique. Parce que nous ne produisons pratiquement pas de panneaux solaires, nous ne produisons pas d'éoliennes, nous ne produisons que très peu de voitures électriques. On sait que la Chine envahit complètement le marché mondial de la voiture électrique. On ne produit pratiquement pas de pompes à chaleur, donc ça viendra aussi du sud-est asiatique. Donc ça veut dire que ces 66 milliards d'euros, ce seront déficit du commerce extérieur, qui, de son côté, va exploser.
Nous avons un record déjà depuis quelques années. En déficit de commerce extérieur.
Et donc, la cerise sur le gâteau proposée par le rapport Pisani-Ferry, c'est une ISF climatique, donc c'est-à-dire un impôt sur la fortune climatique. Alors, tenez-vous bien, qui s'appliquerait de 10%, qui s'appliquerait en une seule fois sur les patrimoines supérieurs à 400 000 euros.
Ça va plaire à tout le monde.
Plaire à tout le monde.
Excusez-moi, donc, l'ISF, le I de ISF, c'est votre quatrième I ?
Mon quatrième I n'est pas celui-là. Donc, je vous ai dit, le troisième I, c'est ce que je viens de vous expliquer. Ça apparaît insoutenable sur le plan économique. Ouais. Et le quatrième I, alors, on a le choix entre insignifiant ou inutile. Je laisserai à nos auditeurs choisir. Ben, on revient au fait que c'est 55% sur le plan de la réduction des émissions mondiales, c'est complètement marginal et que ça n'aura qu'un effet tout à fait insignifiant sur le réchauffement climatique. Et d'ailleurs, le rapport Pisani-Ferry lui-même reconnaît que sur le plan climatique, cet effort n'aura pratiquement aucun effet et que donc, il ramène ça sur le plan moral en expliquant que le pacte vert, c'est essentiellement deux choses. C'est un, montrer l'exemple pour le futur aux émergents pour qu'ils nous suivent. Et ça... Bon, alors, il croit qu'il veut, je dirais, là, je... Bon. Mmh. Et le deuxième, c'est que nous devons nous repentir de nos émissions passées, puisque dans le passé, nous avons émis plus que les émergents, et donc, en compensation de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre des émergents, on l'a dit, pour leur développement, ben, il faut réduire les nôtres aujourd'hui, et quelque part, je le dis en conclusion, nous suicider sur l'autel de la vertu. Donc, pacte vert, oui, pacte des quatri, je les rappelle.
Tout à fait.
D'abord, irréaliste, injuste, insoutenable, et finalement insignifiant.
On a parlé des conséquences en France de ce qu'on doit faire pour appliquer le pacte vert, mais que personne ne parle de l'adaptation au réchauffement climatique.
Alors, dans le pacte vert, il y a une partie adaptation,
oui,
mais qui est quand même très réduite par rapport à la partie atténuation.
Et oui, parce qu'on a évoqué quand même.
Et donc, moi, tout ce qu'on a, je vais vous donner plusieurs exemples donc de ce qu'on pourrait faire de bien plus utile avec ces 66 milliards d'euros. Aujourd'hui, les économies, c'est 10 milliards.
Les 10 milliards,
on a bien du mal à les...
Exactement. On a bien du mal pour l'année prochaine, 20 milliards, en disant ça va être très, très dur.
Très, très dur d'y arriver.
Très, très dur.
Et par contre, 66 milliards, ça n'est rien. Plusieurs choses. Vous savez qu'une des conséquences du réchauffement climatique, c'est ce qu'on appelle le stress hydrique.
Oui.
Donc, c'est-à-dire l'approvisionnement en eau.
Et Dieu sait
alors,
si
j'insiste
ça pose
sur le
problèmes.
Fait qu'on parle de la raréfaction de l'eau. L'eau ne se raréfarie pas.
L'eau, elle existe, rien ne se crée.
Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a effectivement, suivant les territoires, une redistribution, mais pas une raréfaction de l'eau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, par exemple, on sait qu'il y a 20% de pertes dans le réseau de distribution d'eau. Ben, je trouve que ces 66 milliards d'euros seraient beaucoup plus utiles pour refaire un assainissement complet du réseau de distribution d'eau en France pour éviter ces pertes qui finalement coûtent énormément. On montre du doigt, admettons, cette bonne guerre, les golfs d'un côté et les piscines de l'autre, qui ne représentent que peanuts en matière d'eau, alors qu'au contraire, les 20%, on en parle pratiquement jamais. On sait que le réchauffement climatique en matière de décès, c'est essentiellement les vagues de chaleur qui créent des décès.
Oui.
Ce sont les inondations et les tempêtes qui vont créer des gros dégâts matériels, mais qui par contre induisent très peu de victimes, alors qu'au contraire, les vagues de chaleur ne créent pas de dégâts matériels,
mais par contre tuent
les gens. Et donc ça veut dire que par exemple, installer de la clim dans les EHPAD serait, à mon avis, une grande cause nationale pour moi, pour éviter ces décès, on les connaît pendant les vagues de chaleur, il y a énormément de décès dans les EHPAD suite à des déshydratations. Et dernier point en adaptation, alors ça c'est encore une grande cause nationale à mon avis, c'est l'artificialisation des sols, donc c'est-à-dire que l'artificialisation des sols a tous les défauts, si j'ose dire, j'en pointe au moins trois. Le premier, c'est que ça augmente la température et ça crée des îlots de chaleur. Mmh. Vous avez parfois des différences de température de 5 à 6 degrés entre une ville où il y a une artificialisation des sols et la campagne, tout simplement parce que le sol, c'est un corps noir qui va absorber la chaleur, alors qu'au contraire, à la campagne, c'est la végétation qui va absorber la chaleur et limiter l'augmentation de température. Deuxième effet de l'artificialisation des sols, c'est évidemment que ça empêche l'eau de percoler et de remplir les nappes phréatiques, donc c'est-à-dire que globalement l'eau s'en va par évaporation et n'est pas captée par les nappes phréatiques, et en plus, ben, comme elle reste en surface, ça crée des inondations, donc l'artificialisation des sols est un véritable cancer qu'il faudrait essayer d'éradiquer. Et évidemment, ben, dans mes 66 milliards d'euros, je trouve qu'il faudrait consacrer une partie de cet argent à désartificialiser les sols, dans la mesure où, je vous dis, c'est un véritable cancer en matière de réchauffement climatique et de conséquences météorologiques. Donc encore une fois, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut arrêter de décarboner.
Oui, mais bien
ce que
sûr,
je dis, c'est qu'il faut décarboner à un rythme raisonnable et qu'il faut s'adapter à un rythme raisonnable. Et je crois que les 55% et le pacte vert, c'est quelque chose qui est beaucoup plus idéologique que raisonnable. Et l'ingénieur rationnel que je suis, a envie de se battre contre ce pacte vert. Et donc, moi, ma proposition, c'est finalement que ce pacte vert, et là, je m'adresse peut-être à l'ensemble des politiciens qui interféreront lors des élections européennes, c'est de finalement ramener de façon raisonnable ces 55% aux 40% initiaux, qui, à mon avis, eux, ne sont pas irréalistes, comme je l'ai dit. Et vous avez les conséquences derrière, c'est que si ça n'est pas irréaliste, ça devient soutenable. Et de toute façon, nous montrerons, je pense, autant l'exemple avec les 40% qu'avec les 55%. Ce delta de 15% est véritablement une erreur stratégique qui risque vraiment d'amener l'Europe dans le mur.
Et alors, je vais ajouter un commentaire géopolitique bien sur ce point-là. On a parlé de la France et de l'Allemagne. Bon, tout le monde sait bien, c'est pas du tout une critique, elle a été élue tout à fait normalement, mais Mme von der Leyen était allemande, ses conseillers sont tous allemands sans exception, ça c'est très intéressant, autour d'elle, il n'y a que des Allemands. Le pays le plus polluant d'Europe actuellement, enfin, parmi les grandes puissances européennes, le pays est de loin le plus polluant, c'est l'Allemagne. En passant à 55%, inatteignable certes, mais comme on vous l'a expliqué, avec, compte tenu des différences de point de départ entre la France et l'Allemagne, ça pénalise la France par rapport à l'Allemagne. Et dans la situation actuelle où l'Allemagne est rentrée en récession, comme vous le savez, la France ne va pas bien, mais l'Allemagne est en récession, c'est un moyen pour l'Allemagne de reprendre le leadership au niveau économique contre la France. C'est une conséquence indirecte du Green Deal que personne ne veut voir ou n'a voulu voir. Et ça, je tiens aussi à insister là-dessus.
Mais
parce que
je suis tout à fait d'accord, tout à fait d'accord avec vous. Le Green Deal a été pensé, écrit pour l'Allemagne.
Pour l'Allemagne.
Et le Green Deal n'est qu'une poursuite de ce qu'on appelle l'Energie 22, qui est en fait le pacte vert allemand, qui est devenu quelque part un pacte vert européen. Alors on a quand même progressé au cours des deux dernières années, et je crois qu'il faut rendre hommage de ce côté-là à Agnès Pannier-Runacher, qui a fait un travail exceptionnel. Elle n'a pas été très bien récompensée d'ailleurs de son exceptionnel.
C'est peut-être pour ça qu'elle a été vidée.
C'est peut-être pour ça qu'effectivement, elle a fait, je trouve, un travail tout à fait exceptionnel, en se battant notamment pour que le nucléaire soit reconnu comme une énergie verte, et c'est le cas aujourd'hui. Parce que l'Allemagne, évidemment, qui voulait sortir du nucléaire, était complètement contre.
Nous avons fait, excusez-moi de vous interrompre là-dessus, on a fait une émission spéciale là-dessus. Non, mais justement, et on a expliqué comment les écologistes allemands, le gouvernement allemand, à travers ses écologistes, avait saboté l'industrie nucléaire française.
Oui, c'est le fameux rapport de l'école de guerre économique,
qui est clair et net. On a fait venir un des rédacteurs du rapport, et nos auditeurs ont pu comprendre... Voilà. Comment l'Allemagne a saboté l'industrie nucléaire française pour favoriser l'Allemagne, la production allemande et le gaz.
Il y a un petit paragraphe là-dessus, donc sur l'impact de l'Allemagne sur la transition énergétique. Et donc j'ai eu plusieurs remarques très, je vais dire, véhémentes de la part d'écologistes me disant « Mais de quel droit écrivez-vous ça ?» En fait, c'est une opinion de votre part, ce ne sont pas les faits. Donc je les renvoie vers cette étude de l'école de guerre économique qui est extrêmement clair de ce côté-là.
Elle est extrêmement claire, il n'y a pas le moindre doute.
Il n'y a pas le moindre doute, donc, de ces fondations allemandes qui ont essayé...
Les deux fondations allemandes, financées par l'État.
Financées par l'État allemand et qui ont essayé de tuer EDF, en fait. Hein. Il ne faut pas...
Ils ont failli réussir. Pour promouvoir le gaz allemand qui venait de la Russie comme chaque
année. Enfin, oui, donc le gaz russe qui approvisionnait
l'Allemagne. Exact, le gaz russe, pardon, qui approvisionnait l'Allemagne, qui devait la redistribuer partout.
Oui, et d'ailleurs, bon, ce n'est pas une grande réussite, puisque l'Allemagne a quand même investi énormément dans les deux pipes, donc Nord Stream, qui aujourd'hui ont explosé et sont inopérants. Donc,
exactement.
C'est la saga totale.
Pour revenir, vous parliez des 55% de réduction
gaz à effet de
du gaz à effet de serre.
Par rapport
et finalement,
à
1990. C'était pas 55% sur l'ensemble des pays européens, dans la communauté européenne, mais c'est pays par pays.
Alors, les 55% s'appliquent en fait sur l'ensemble des émissions de l'Union européenne et des émissions territoriales. Donc, c'est-à-dire que ça ne s'applique pas à l'empreinte carbone, mais bien aux émissions territoriales. Donc, les émissions d'importation ne sont pas visées, contrairement à ce que les gens pensent, par le, comment dirais-je, par le pacte vert, parce que c'est extrêmement compliqué de calculer cette empreinte carbone. Par contre, implicitement, si vous voulez, il faudra bien l'appliquer pays par pays. Donc, la loi ne s'applique pas pays par pays, mais de façon globale. Mais implicitement, chaque pays a finalement le devoir de respecter les 55%.
Ce qui est compliqué, par exemple, les pays nordiques, avec des forêts immenses, peut-être une capacité déjà, un gros travail de, plutôt proche de la nature, ils vont avoir le même effort à faire que, par exemple, l'Allemagne ou des pays comme la France.
Ben, je vous dis, on vise un effort global. Donc les efforts individuels ne sont pas tous exactement les mêmes, mais si on prend l'Allemagne et la France, qui était ma comparaison, les efforts à 1% près sont à peu près similaires. Donc ça veut dire que la notion d'injustice que je vous exprime, elle n'est pas écrite dans le texte, mais elle est là dans les faits.
Elle est réelle.
Je vous propose, pour revenir sur tout ce qui est Green Deal ou autre, en tout cas tout sujet sur la transition énergétique, on a quand même fait deux émissions intéressantes sur le pôle Nord et le pôle Sud, qui sont un peu éloignées de l'Europe, mais finalement, on avait abordé cet aspect transition énergétique.
L'eau aussi, avec
et une émission sur l'eau, très intéressante.
Dont on reparle aujourd'hui, d'ailleurs.
Ouais, exactement.
Voilà. Et donc, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube et vous allez voir un certain nombre d'émissions qui ont abordé quand même ces sujets sur les transitions énergétiques. Merci et à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Pour participer à ce jeu concours, vous n'avez plus qu'à cliquer sur ce lien. Vous découvrirez les questions autour de nos émissions. Je vous souhaite bonne chance et je vous souhaite aussi de gagner les nombreux lots que nous vous proposons. Merci et à bientôt.